Interview.
2 jours. Bonjour, ici Erdivoire et c'est l'heure de l'interview avec au studio Nathalie Amonique. Bonjour.
Bonjour Yves, merci pour l'invitation.
Nathalie, tu es coordinatrice générale de l'association La Graine Vagabonde. Tu nous expliqueras un peu la poésie de ce titre et tu es avec nous pour nous parler d'une proposition à venir, celle du 21 mars 2026. Ça se passera à la salle communautaire de l'ESCDD à Die en matinée à partir de 9h30 jusqu'à 12h30. Il s'agira d'un stage de percussion pour enfants de 6 à 11 ans dans le cadre du labo Musique Pumtchak. Alors, oui. Tu pourrais peut-être avant tout aussi nous présenter cette association qui a été créée en 2013.
La Graine Vagabonde, c'est l'impulsion, le désir au départ de semer des graines de vie et de joie. Et aussi du fait de nos expériences multiples en agroécologie. Donc l'idée de la graine était évidente, c'était des graines de savoir-être, du vivre ensemble, des savoir-faire. C'est généralement des pratiques traditionnelles agricoles. Au départ, c'est parti de là. Petit à petit, au long de l'évolution de la création de l'association, deux pôles se sont vraiment déterminés. Le pôle éducation à l'environnement et développement durable et le pôle plus socio-culturel axé sur les arts vivants, les arts du spectacle vivant. Voilà. Pour l'instant, pour l'origine du nom.
Initialement, vous étiez donc deux à créer cette association avec Delphine. Et il y avait cette mission de favoriser le lien intergénérationnel, la mixité sociale, l'inclusion des publics sensibles du territoire de la Drôme. Alors, on pourrait peut-être impliquer aussi donc ce qu'est un public sensible.
Avant de parler des publics sensibles, je peux dire sur l'association que c'est une association d'éducation, d'art vivant et nature. Pourquoi ? Parce que ce sont des outils pédagogiques qui sont, disons, autant de prétextes pour amener du mieux-être. Du coup, effectivement, on a eu plus de demandes et on a senti qu'il y avait plus de besoins au niveau des publics dits sensibles. On a eu des demandes, en fait, pour accompagner notamment notre public de prédilection, les jeunes et les enfants. Donc, des enfants souvent en difficulté d'attention, de confiance, de psychomotricité. Donc, c'est vrai qu'on s'est d'abord orienté vers des publics liés au réseau d'éducation prioritaire ou dans les écoles des enseignants détectaient des difficultés dans leur classe. Donc on a travaillé avec des outils d'abord musicaux et puis circassiens puisqu'on vient de là à l'origine. Et j'ai donc aussi une formation d'animatrice nature. Du coup, tout naturellement, on en est venu à associer des outils liés à la nature, des matériaux naturels. Donc, petit à petit, on a commencé à fusionner les arts vivants et la nature en se disant que de toute façon, l'art, c'était la nature, que dans la nature, on a appris à chanter, à écouter, à se centrer, à s'ancrer. Et on se tourne vers des publics qui, effectivement, sont en difficulté sociale ou sont un peu en marge. Donc, ça peut être, effectivement, des maisons de retraite, les seniors, les MARPA. Ça peut être des personnes qui vivent dans les villages isolés, qui n'ont pas forcément de contact et de proximité avec le reste de la population. Donc, petit à petit, l'idée, ça a été de créer des ateliers de plus en plus intergénérationnels. Du lien social pour que les gens se rencontrent, se rassemblent, apprennent à se connaître. Et l'envie actuellement en 2026, c'est de créer des ateliers qui vraiment fédèrent les gens dans les villages du Haut-Diois en particulier. Donc là, on a un projet avec le village pilote d'Archiane. On est en train d'étudier l'organisation, les besoins, le cahier des charges. On a un travail qui va se faire en partenariat, on espère aussi, avec des thérapeutes, des accompagnants, les centres sociaux. Pardon. Donc l'envie, c'est que les gens se rencontrent, participent aux activités ensemble. Donc ça peut être, au départ, on s'est dit qu'on allait rassembler les gens autour de la botanique et de la cuisine sauvage, parce que le fait de cuisiner ensemble et de partager un repas, ça permet déjà de briser la glace, de se rencontrer. Après, on a envie d'emmener peut-être une chorale dans ces villages où les gens prennent la parole. On a envie de déposer des boîtes à idées aussi, pour que les gens puissent mettre des petits textes sur des sujets de société qu'on aurait envie d'aborder, des sortes de petits cafés philo. Tout ça pour emmener petit à petit du lien et que, indépendamment de l'association La Graine Vagabonde, les gens, après, puissent spontanément s'entraider eux-mêmes dans les villages. L'idée, c'est d'avoir une sorte de binôme, un mentorat gagnant-gagnant entre une famille qui apporte de l'aide à une personne plus âgée, qui, elle, va peut-être apporter ses compétences, son savoir-faire, sa sagesse. Un échange vraiment d'émotions, un échange d'histoire aussi. Et on aimerait bien formaliser tout ça à l'arrivée, peut-être avec des outils, un média. En fait, on aimerait qu'il y ait un média qui sorte de là, un média positif intergénérationnel.
2013, donc, vous répondiez à une demande donc de ce caractère social, éducatif et culturel. Vous êtes parti directement du DIWA?
On a commencé à tester, on peut dire, des ateliers avec des écoles. Alors, il y a eu Saint-Paul-Trois-Châteaux, Saint-Nazaire-le-Désert. Donc là, on a proposé des ateliers vraiment d'éducation à l'environnement plus pur. Par exemple, sur le cycle de l'eau, plusieurs séquences avec des classes multi-âges, c'est des classes uniques. En fait, on répondait au départ plus à la demande des enseignants qui avaient un programme ou qui avaient une envie de projet scolaire et qui avaient détecté dans leur classe voilà, des manques. Et nous, on a proposé des outils qui visiblement correspondaient bien à la demande des enseignants ou des encadrants. On a aussi travaillé avec la FOL 26, donc à la Fontaine d'Annibal, à Buis-les-Baronnies, à Couleur Nature. Au début, on a plus répondu à une demande. On a commencé à avoir notre page Facebook. Au début, on avait que cet outil. Hein. Et petit à petit, on a eu un catalogue, si tu veux, d'ateliers qui sont dans les tendances actuelles et aussi qui répondent vraiment à une demande plus générale, veut dire des familles aussi. À, sortant des écoles et du scolaire, des familles sont venues nous voir en disant « Mais est-ce que vous ne proposez pas des ateliers plus intergénérationnels où on pourrait faire des activités différentes avec nos enfants ?» Donc, sont venus les ateliers d'immersion en vie sauvage, où on est plus au cœur du vivant. Et là, on travaille sur les arts primitifs, les arts ancestraux, comment trouver de l'eau, comment reconnaître les plantes, savoir les transformer, les préparer. Et c'est vrai que ça fait 2-3 ans qu'on a vraiment envie d'élargir sur les seniors, parce que je pense qu'il y a un vrai manque dans ce secteur qui est de plus en plus en train de se développer. Il y a de plus en plus d'animateurs et de gens qui font des choses avec les seniors. Mais j'avais envie que les enfants aillent au contact des anciens et vice-versa, puisqu'eux ne pouvaient pas se déplacer à la base. Donc les enfants allaient se déplacer d'abord. Et je pense qu'on fera appel, c'est dans le projet, hein, de faire appel à RDIWA, pour justement voir si on peut voilà, trouver une solution, un partenariat qui permette en fait d'avoir un média qui serait complètement, à un moment, fait par les enfants et les jeunes, les ados, au contact des anciens. Je parle des maisons de retraite ou des EHPAD, parce que les personnes résidentes ne peuvent vraiment pas se déplacer. Donc l'idée, c'est d'amener du contact social, d'amener des outils artistiques, des outils de la nature, vraiment, littéralement, amener la nature au cœur des maisons de retraite. Et de là, arriver à peut-être faire des restitutions, podcasts, pourquoi pas des petites vidéos, avoir un blog vraiment qui prenne vie. Nous, on sera là juste pour accompagner, pour que ça se mette en place, pour voilà, être garant en fait, de la bonne marche et le bon développement du projet. Et ça, pour 2026, c'est vraiment quelque chose qui est pilote. Au-delà des stages que l'on aime faire, là, comme le stage de percussion qui arrive le 21 mars, c'est vraiment le public enfant, là, parce que bah, voilà, c'est le public avec lequel on aime particulièrement travailler. Et il y a plein d'idées, ça foisonne. Et c'est peut-être aussi l'occasion de proposer aux enfants qui viendront à ces ateliers bah, de participer plus tard, dans le courant de l'année 2026, à ce projet d'atelier de médias positifs intergénérationnels.
Très tôt, donc, vous vous êtes impliqué sur le Haut-Diwa. Il y avait cette envie aussi partagée avec une municipalité, un établissement scolaire également, ou d'autres structures. Est-ce que cela a permis de vous conforter et d'enrichir aussi vos compétences dans le domaine de l'animation ?
Oui, tout à fait, Yves. On a travaillé aussi avec des écoles alternatives. Donc là, ça a été un grand bond en avant pour acquérir d'autres outils, notamment du savoir vivre ensemble. Donc on avait déjà des formations liées à l'éducation Steiner ou Montessori ou en éducation à l'environnement, comme l'espinasse, tout ça. Mais effectivement, le fait d'avoir travaillé avec des structures qui font remonter... Quand on fait le bilan, en fait, après des ateliers qui font remonter des besoins particuliers ou qui pointent du doigt certaines choses, ça nous a vraiment permis d'affiner nos ateliers et d'être au plus près, de répondre au plus près de la demande, en fait, des publics. L'idée, c'est quand même que c'est des ateliers adaptables au public, pour rester très à l'écoute et souple. C'est vraiment le thème des ateliers vivants. Travailler avec des structures différentes régulièrement, c'est une source de richesse inépuisable. Du coup, on a des ateliers qui peuvent se décliner à l'infini.
La Graine Vagabonde est une association qui permet d'accueillir combien au sein de son équipe ?
Alors actuellement, nous sommes 5 bénévoles actifs et engagés vraiment sur le terrain. Donc on a Delphine, Théo, Lauriane, Morgane et moi-même. Ce sont pour la plupart des animateurs nature, mais pas que. Puisqu'on a une shiatsu-thérapeute, on a une directrice de centre de vacances aussi. On a une enseignante, Karine, qui vient de nous rejoindre, avec qui nous avions déjà travaillé en classe découverte et avec l'atelier Pumchak, le labo Pumchak. Ce qui est bien, c'est qu'elle est au cœur du corps enseignant et elle peut nous faire remonter vraiment la température, hein, les besoins en fait, que les enfants ont actuellement ou que les enseignants ont, parce qu'ils sont vraiment en difficulté de transmettre de l'apprentissage aujourd'hui. Car tout va très vite. Donc on est 6 bientôt, donc bénévoles investis. Et après, ponctuellement, selon les événements, une participation d'atelier, une sortie nature, on peut avoir des intervenants bénévoles qui viennent ponctuellement soutenir l'équipe.
La Graine Vagabonde se missionne pour l'animation. Est-ce que pour vous, il y a quelque sorte un certain privilège des enfants d'être... dans la campagne, et que ça aide beaucoup déjà votre proposition. J'imagine que c'est doit être plus difficile dans une cité urbaine.
C'est formidable que tu abordes le sujet, parce que le rendez-vous de ce matin que j'ai eu était justement lié à cette question. Donc c'est vrai qu'on a travaillé pendant une dizaine d'années avec les enfants et les jeunes, on va dire, en priorité des zones rurales. Donc évidemment, j'ai envie de dire que du bonheur, parce que c'est des enfants qui sont déjà sensibilisés pour la plupart par leurs parents, par l'environnement social, par tous les gens qui ont choisi de vivre ici. En général, on va beaucoup plus loin avec ces enfants. C'est-à-dire qu'on n'est pas on n'est pas en train de transmettre des bases, des fondamentaux, on les a déjà. Et du coup, on peut aller beaucoup plus loin. Et avec eux, on a réussi vraiment des projets... des mini-camps sauvages, des projets où les enfants n'ont pas peur d'aller à la découverte, de proposer des idées. Et effectivement, c'est presque un terrain de formation permanent, interactif. Par contre, depuis plusieurs années, nous, ce qui nous intéresse, c'est quand même d'aller en milieu urbain, là où on a peut-être plus besoin de nous pour des enfants qui n'ont pas du tout accès à la nature, qui sont dans un environnement où il n'y a pas forcément de jardin aménagé ou de lieu où faire ses apprentissages. Donc on a quand même travaillé avec beaucoup de classes venues de Valence, notamment de Marseille, des quartiers nord de Marseille, des cités de Grenoble, par la folle. C'est-à-dire que là, on intervenait dans une structure de centre de vacances, de classe de découverte, et là, on a eu des enfants qui était vraiment en totale découverte. Et là aussi, c'était que du bonheur, Mais parce que justement, on sentait qu'il y avait une envie, un désir d'apprendre, de connaître, de rester. Alors, c'est des enfants qui, en général, ne veulent pas venir en classe découverte, mais ne veulent plus repartir. Donc, à la fin du séjour, on sait que ça a fonctionné et qu'on a partagé beaucoup de joie, déjà, à créer ensemble, à explorer, à crapahuter, à se traîner par terre, littéralement, dans la forêt. Et c'est des enfants qui ne veulent pas rentrer après. Parce qu'ils savent qu'ils vont retrouver leur quotidien, qu'ils ne vont pas avoir cet espace de liberté, cet espace de vie. Mais je dirais que c'est quand même là qu'on a le plus envie de se diriger aussi. En gros, c'est comme si l'équipe de la Graine Vagabonde, ici en zone rurale, elle comptait aussi tous les enfants et les jeunes du coin, dans son équipe, mais de façon informelle. Et que on allait pouvoir ramener tout ce collectif, toute cette énergie collective, dans les zones urbaines, qui ont vraiment, vraiment une demande forte. Mais là, il va falloir trouver, par contre, les structures qui accueillent, qui sont prêtes à accueillir cet accompagnement éducatif. Mais c'est vraiment le projet aussi, les zones urbaines, c'est en cours.
Principalement dans la Drôme ?
Au départ, localement, principalement dans la Drôme. Mais pour le coup, on s'est retrouvés à intervenir en Ardèche et puis finalement en PACA.
Vous avez procédé à quelques expériences depuis 2023. Vous proposez des animations sur le cycle de l'eau, notamment à l'école de Saint-Nazaire, ou alors des ateliers rythme, corps et chant à l'école de Le Rosséguin de Saint-Paul-Trois-Châteaux. Oui. Des stages de sortie botanique également avec de la cuisine sauvage, avec l'association Solidarité Jeunesse. Des ateliers de cirque également, puisque tu en es issu toi-même,
avec
Nathalie.
L'espace social.
Et puis, il y a aussi Cirque et Nature, avec le gîte du Champ du Loup, à Die. Les classes découvertes à Bulles-et-Baronnies. Et puis aussi une sortie nature agricole dans des fermes. Donc, il y a cette école de la nature que vous proposez.
Tout à fait. C'est ça. On vient de l'école du dehors. Mais là, je pense que là, peut-être que la différence, c'est qu'on y rajoute... Notre petite touche, c'est les arts vivants. Donc, ça peut être transformer des plantes que l'on a identifiées, cueillies, en peinture végétale. Ça va être aller plus loin en cuisine sauvage pour vraiment élaborer des sirops de plantes ou carrément des plats, des recettes avec un four solaire. On aimerait bien acquérir un rocket stove aussi pour vraiment cuisiner ensemble. Les enfants aiment beaucoup et les familles aussi aiment beaucoup cuisiner ensemble. On dirait que l'alimentation rassemble tout le monde sur Terre. La musique verte, la fabrication d'instruments de musique verte. Donc là, les enfants sont créateurs de leurs objets, ils repartent avec et puis peuvent continuer à jouer. Donc l'envie, c'est quand même d'être sur la découverte, la sensibilisation, parce qu'on protège mieux ce qu'on connaît mieux. Donc quand on en est plus impliqué en nature, qu'on comprend mieux comment ça se passe, les écosystèmes, comment le vivant... se met en place et que l'on fait partie du vivant, du coup, et qu'on peut s'approprier des outils, on arrive vraiment à une forme d'œuvre collective, si tu veux. Tu vois, ça peut être du land art géant et y a une satisfaction à faire ensemble.
Ça permet d'éveiller quoi en l'enfant, de proposer ces ateliers? Et puis, quels en sont les retours de leur part à la suite?
En fait, le principe, c'est les ateliers lents. En anglais, ça ferait du fameux slow workshop. Tu vois, c'est dans l'air du temps, effectivement. Mais on propose des ateliers qui permettent vraiment de lâcher prise, de lâcher les écrans et de venir vivre du vivant. Ça, on y tient. Ce sont des enfants, aujourd'hui. Moi, je suis moi-même maman d'une fille de bientôt 15 ans. Donc, elle est quand même hyper connectée. Mais étant donné... qu'elle a aussi des outils nature, des outils factuels où elle sait qu'elle peut fabriquer, trouver ses ressources. Du coup, elle arrive à se détacher maintenant plus facilement de ses écrans. Et elle arrive à se poser en son centre, à me dire tiens, je suis allée écouter les oiseaux aujourd'hui, je suis descendue dans le jardin, je suis allée cueillir des plantes, viens, on fait un sirop. Les enfants avec qui on travaille, voilà, on vit tous dans une société où tout va très vite. On est souvent empli de trop d'images, on est sollicité de toutes parts. Moi-même aussi, je me retrouve plus connectée que ce que j'aurais voulu l'être. Mais c'est aussi des outils de ces générations-là. Donc je ne pense pas qu'il faille les les interdire. Le fait de venir en nature et de participer à d'autres savoir-faire, d'eux-mêmes les enfants, en fait, ils n'ont pas envie d'aller sur un écran. Peut-être qu'à l'arrivée, on va restituer un objet, on va peut-être enregistrer ce qu'on a fait avec nos instruments de musique verte qu'on a fabriqués, on va peut-être jouer un morceau qu'on s'est dit, tiens, pourquoi on n'en ferait pas un clip ? Mais ça reste un outil, la technologie, et les enfants qui viennent aux ateliers, bah, ils s'immergent tellement dans le vivant qu'au final, bah, ils n'ont pas envie de revenir vers leurs écrans. Généralement, ils sont beaucoup plus posés, centrés, vraiment. Il y a quelque chose qui est lié à l'ancrage, à la confiance, à la qualité de l'attention que l'on donne.
L'association est aussi adhérente à l'espace social et culturel du Diwa. Ça oui. vous ouvre beaucoup de perspectives au sein du Diwa. Mm-hmm. Et il y a aussi l'association Éveil et Nature et le réseau Graine Ara. Ça doit être Auvergne-Rhône-Alpes, j'imagine.
Tout à fait.
Et tout cela vous permet de consolider cette proposition très variée. Et en même temps, il y a un coût. Et vous avez justement opéré un financement participatif au sein du site Hello Asso.
Alors là, on vient de faire une cagnotte de solidarité Hello Asso, mais on est vraiment sur une catégorie qui était là depuis le début et dont je n'ai pas forcément parlé au début, c'est la protection animale. Éducation à l'environnement, protection animale sont liées de toute façon. On a effectivement eu des ateliers de médiation animale, notamment le fait d'emmener, d'avoir des personnes âgées au contact d'animaux ou d'enfants qui sont en difficulté thérapeutique, d'enfants atypiques. On connaît déjà l'équithérapie, par exemple, mais effectivement, on est allé un petit peu plus loin en se disant comment on pourrait travailler en partenariat avec, je pense, à la ferme Terre Anima, qui a Luce-la-Croix-Haute, avec qui on a un désir de travail commun. Parce qu'eux, ils accueillent déjà des groupes d'enfants en difficulté de Grenoble, vu leur situation géographique. C'est vrai que la cagnotte, là, et l'Oasso, elle était sur un moment ponctuel où on a un besoin de facture parce qu'on a fait un sauvetage vétérinaire et qu'on n'a plus assez d'argent pour financer. Donc, il y a eu un gros élan de solidarité. Pour le coup, il nous manquait une facture à payer et tout le Diwa qui connaît l'association a répondu favorable parce que en fait, on travaille aussi avec le centre de soins pour la faune sauvage l'Hirondelle. J'ai oublié de te dire, Yves. C'est important de les citer parce qu'ils font un travail formidable à Chalencon maintenant. Donc, ça fait à peu près des 3 ans grâce à des fondations de soutien comme la fondation Bardot, ils ont pu racheter 180 hectares quand même de terrain. Et donc, on travaille pas seulement avec de la faune, on va dire plus domestique, bien qu'un chat reste sauvage. Mais régulièrement, en fait, on achemine des fouines, des grenouilles, des tortues. Là, on vient de faire un sauvetage de tortues d'Hermann, alors qu'il n'y a pas de tortues d'Hermann dans notre écosystème d'Iwa. Donc, il nous arrive de travailler assez régulièrement avec le centre de soins pour la faune sauvage et on essaye de réfléchir à comment on pourrait faire des passerelles pour mettre en contact des publics sensibles avec le centre de soins. Est-ce qu'il pourrait y avoir des interventions, des sorties, des petits rendez-vous mensuels où on pourrait apporter du mieux-être de parts et d'autres. On travaille avec pas mal d'associations, au final, et structures. Et on espère encore en développer. Juste par rapport au financement que tu disais, en fait, je pense que là, on est en pourparlers pour, dans l'année 2026, faire un financement participatif, mais plutôt Kiss Kiss Bank Bank ou sur le projet intergénérationnel et le média qu'on aimerait voir aboutir. Mais par contre, voilà, ça va demander du temps, de l'investissement, du montage de projet encore. Sinon, on est financé en gros par les bénévoles pratiquants et les adhérents. Hein.
Voilà, donc cette ouverture de la graine vagabonde sur ce qui existe et ce qui fait le Diwa, notamment des artisans, des animateurs, des animatrices, des artistes, la corderie également, et puis des structures telles que Plein Champ, Fondation Ardouvan. Et tous ces partenariats se constituent lentement, mais sûrement.
Alors, c'est parce qu'on a souvent eu des enfants qui étaient issus de Plein Champ ou d'Ardouvin. Aujourd'hui, on n'a pas encore pu développer, par exemple, un vrai partenariat avec ces fondations. C'est plus dans les perspectives, les projets. Mais on a eu des enfants, notamment dans les ateliers cirque, qui avaient besoin d'un accompagnement psychomoteur. Et du coup, ça nous donne envie de développer plus en avant. La corderie, on y pense aussi, mais c'est un réseau de professionnels qui, pour nous, peuvent être des personnes ressources. Aujourd'hui, on n'a pas de partenariat avec eux encore. On le souhaite à l'avenir. Je pense que ça va pouvoir se faire une fois qu'on aura formalisé un peu plus les projets en cours. C'est plus pour nous un réseau de professionnels auquel on peut accéder. Pour nous, le DIWA, c'est une mosaïque de diversité socioculturelle. Je trouve qu'il y a un carrefour ici assez extraordinaire de personnes issues de tout horizon. Et ça a créé un tissu social, culturel, mais aussi de professionnel, avec des gens avec des compétences incroyables qui ont monté des projets solidaires qui aujourd'hui font leurs preuves. Et c'est plus apprendre à vraiment aller chercher les ressources, les personnes compétentes spécifiques pour dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, comment on va développer tel stage, tel atelier. Est-ce que, par exemple, on m'a dit, mais vous n'avez pas encore participé à la semaine bleue. Ben, on aimerait bien le faire cette année-là, 2026, parce que maintenant, on est plus capable de s'adapter à ce public. Alors, on ne sait pas encore qui vraiment il faut s'adresser pour pouvoir proposer un atelier ou un média en direct, je ne sais pas, peut-être c'est vous, RDIWA.
Oui, mais c'est vous le département sur la semaine qui porte bleue. Ça, hein, si. Surtout.
Du coup, voilà, on a beaucoup travaillé avec les écoles, avec les familles, on a fait notre propre com diffusion. Aujourd'hui, on a envie de rayonner davantage. Et pour ça, travailler en partenariat avec un réseau professionnel, savoir s'adresser aux personnes ressources, ça me paraît indispensable de vraiment communiquer, fédérer en fait ces ressources.
Il y a à la corderie, quels sont les partenariats possibles avec cette structure pour qui l'argent n'existe pas, mais c'est plutôt un échange de temps.
Soit c'est aussi donner de notre temps en échange de coups de main bénévoles, et ça pourrait être super aussi, parce que parfois on a besoin de plus de bénévoles, ils ne sont pas forcément tous disponibles vu qu'on n'est qu'une petite équipe au départ. Donc c'est vrai que l'idée de proposer des ateliers, peut-être regrouper plusieurs personnes qui ont la même envie, et en échange, est-ce que vous pourriez donner de votre temps quand on fait un événement, notamment, voilà, s'il y a le village pilote d'Archennes, ça peut être bien qu'il y ait d'autres personnes qui viennent filer la main. Et ça peut être effectivement un partenariat sans argent, mais donnant-donnant, on se donne du temps, on s'entraide, et ça c'est chouette, quoi, solidairement parlant.
En 2025, vous aviez quelques objectifs qui permettaient de créer des collaborations ou des partenariats avec des maisons de retraite, des EHPAD, des instituts médico-éducatifs, des centres d'accueil pour jeunes ou alors aussi pour migrants. Qu'en est-il aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a un départ affirmé de ce souhait ?
Alors là, pour le coup, on va continuer à consolider avec Solidarité Jeunesse, surtout les chantiers de jeunes internationaux. Donc là, en plus, c'est bilingue. Donc on a des ateliers où ça se fait pour majoritairement en anglais, avec des jeunes qui viennent de vraiment tout pays. On a envie de développer avec eux, notamment la ferme du Fay, dans les Hautes-Alpes, donc, parce que c'est le Solidarité Jeunesse de Veynes. Alors eux, ils ont quand même des soucis de subvention aussi, donc c'est pareil, comment on travaille ensemble. Le problème, c'est un petit peu les financements. Aujourd'hui, on a tous des beaux projets à porter, mais comment on va arriver à les mettre en forme pour que des publics en bénéficient. Donc ça, c'est le côté ferme du Fay. Là, c'est en discussion comment on va monter peut-être des demandes de mécénage, on ne sait pas encore. Mais on a envie de continuer à développer avec ces jeunes. Et puis là, c'est, je pense notamment à, et je le dis haut et fort, pour l'EHPAD du fil de soie. Moi, j'y vais régulièrement et je connais deux animatrices formidables qui sont là-bas, Sarah et Sandrine, si vous m'entendez. Donc, c'est prise de rendez-vous avec la responsable et voilà, proposer le projet et si c'est OK, travailler sur un cahier des charges commun pour faire en sorte que ce soit fait dans les bonnes conditions, avec les encadrants, et que tout le monde puisse participer. Moi, j'ai très envie de le développer là, sur le fil de soie, les ombelles. C'est, en fait, on a commencé par faire une enquête de terrain auprès des seniors. Et on a des demandes claires. Moi, j'ai des personnes qui m'ont dit bah, j'adorais jardiner, mais là, je ne peux plus. J'aimais bien planter, mais je n'y ai pas accès. Je me dis, il y a vraiment quelque chose à développer sur... Ça fait longtemps qu'on y pense, ça, de mettre un petit jardin en place pour que les résidents puissent le faire. Ceux qui ne peuvent pas, bah, ils participent aussi avec des graines, avec leurs moyens, en fait, selon les moyens et les besoins des personnes. Sur le projet intergénérationnel 2026, bon, on l'a appelé « Au cœur des générations ». Du coup, il y a une partie au cœur des villages et une partie au cœur des EHPAD, sachant que les personnes qui sont dans les maisons de retraite ne peuvent souvent pas se déplacer sur les terrains. Là, ça serait amener vraiment à eux les moyens de se faire du bien. Par contre, en ce qui concerne les villages, justement, on a la possibilité d'utiliser un terrain qui est très très grand. Franchement, j'ai un trou de mémoire sur le nombre d'hectares, mais qui appartient à un privé, en fait, qui a trouvé le projet touchant, intéressant. Ça a fait résonance avec ce qu'il avait envie de relancer et ça se passerait à Archiane. Donc là, on doit aller sur le terrain voir ce que l'on peut organiser pour commencer à mettre en place des ateliers entre les gens là-bas. Et du coup, on aura accès à ce terrain. Et il nous a dit, après, vous avez carte blanche pour faire tous les ateliers que vous voulez. Il faut juste qu'on arrive à voir, alors je pense Archiane, les Nonnières, Menet. Ce serait pour des gens qui habitent pas loin. Mais on pense aussi aux gens qui ne peuvent pas se déplacer, qui n'ont pas de permis ou qui sont à mobilité réduite. Et là, c'est à nous de venir vraiment au cœur des villages pour voir quels accès terrain on a. Mais on a généralement des propositions. Voilà, les gens ont bon cœur et ils veulent aider. Et globalement, on peut avoir accès, oui, à des terrains pour faire ensemble.
Face à ces possibles échanges et de collaboration, il y a peut-être l'exigence aussi d'avoir... à avoir des personnes compétentes, certifiées pour leur activité. Ça, vous vous en prévalez et vous le garantissez. D'ailleurs, quelles sont les formations qui permettent d'être en activité dans la graine vagabonde ?
Eh ben, on a des personnes diplômées en gestion protection de la nature. On a des diplômés en littérature et culture. On a... des diplômes sur le BIAC, les arts du cirque, par exemple, aussi. On a une aide-soignante. On a un certificat ACACED pour la protection animale. On a donc des animatrices en maison de retraite qui ont envie de participer au projet et donc qui ont quand même des connaissances stricto sensus, comme on dit, de l'accompagnement des soins aux personnes âgées. Donc, de toute façon, on s'entoure de personnes qui sont certifiées professionnellement. D'abord parce qu'on travaille avec du public et de toute façon, c'est une exigence indispensable en termes de sécurité, d'hygiène, de réglementation. Et aussi parce que on a des gens compétents dans leur domaine et qui ont de l'expérience généralement. Je pense notamment à Charlotte qui a envie de nous rejoindre pour l'accompagnement scolaire qu'on propose cette année. On propose cette activité en plus du stage de percussion qui a lieu le 21 mars à la salle communautaire. C'est les deux activités qui nous permettent de rentrer un peu de trésorerie pour continuer les autres activités, d'avoir un petit fonds de roulement. Et ça permet de continuer à accompagner les jeunes ou les publics. Donc Charlotte, elle est diplômée aussi. Voilà, elle a la capacité d'accompagner des jeunes, des petites classes jusqu'à la préparation aux examens. Et moi-même, je suis diplômée aussi. Et puis, il y a 30 ans d'expérience quand même. On commence à pas rajeunir. C'est les jeunes qui nous gardent jeunes, en fait.
La beau musique Pumchak. Ouais. Permet d'initier l'enfant à plusieurs disciplines. Mm-hmm. Il y a la musique, donc, le chant également, la gestuelle également, pareil. Et puis des techniques diverses et variées concernant le sound painting. Alors ça, on pourrait expliquer ce que c'est, ouais. Le gumboat, la polyphonie, le body rhythm, les beatbox. Donc ça, c'est le chant par la voix, hein, je crois.
Oui, alors le labo Musique Poumtchak est né il y a environ 4 ans. On l'a pratiqué dans les écoles avec des classes et à domicile d'ailleurs dans un home studio à Barnave avec des élèves qui sont venus en hebdomadaire là. Et on l'avait aussi testé à l'espace social, mais on s'est rendu compte que ça allait peut-être mieux fonctionner en stage où on a plus d'enfants parce que c'est bien d'être nombreux aussi pour faire ce stage, je trouve.
Comment seront-ils d'ailleurs ? Vous prévoyez combien d'accueillir ?
En fait, il n'y a pas de limite parce qu'on fonctionne en pupitre aussi. Le labo Poumtchak, comme son nom l'indique, par des percussions. Donc là, on va travailler effectivement les percussions instrumentales, corporelles et vocales. C'est vraiment un travail qui affine la psychomotricité, la confiance, l'agilité et puis la joie de créer ensemble et de partager. On travaille avec soit des instruments de musique, donc tambour, petites percussions, soit sans instruments, à part notre instrument naturel. Le body rythme, c'est, vous l'avez compris, les percussions qui sont jouées directement sur le corps en tant qu'instrument. La beatbox, bah, c'est les instruments de percussion produits avec la voix. Nous, on fait une cuisine beatbox. Hein, on n'est pas des beatboxeurs, mais on fait de la cuisine. Ça permet de s'approprier aussi, d'ailleurs, au niveau linguistique. Ça aide beaucoup les enfants qui ont des difficultés à l'école ou pour bien parler. On pourrait faire un travail complémentaire avec des orthophonistes, notamment là-dessus, vraiment. On va slammer. On va travailler aussi le gumboots. Tu connais le gumboots, Yves ? C'est une danse qui est issue d'Afrique du Sud et qui vient des mineurs d'Afrique du Sud. Et littéralement, gumboots, ça veut dire bottes en caoutchouc en anglais. Donc, on joue vraiment avec nos pieds, avec nos bottes, donc encore avec le corps. On a des jeux vocaux et instrumentaux avec des jeux collectifs et individuels. Et après, on n'a pas de nombre limite d'enfants ou de personnes parce qu'on peut travailler en pupitre, notamment en polyphonie, où on travaille sur des chants du monde. Là, cette fois, on va travailler sur des chants du monde qui viennent du Maloya réunionnais. On a un chant congolais. Et on a, si on a le temps, on a un chant brésilien des quartiers nord de Rio de Janeiro. Donc, en même temps, ça permet aux enfants de voyager culturellement, d'en apprendre plus sur un pays ou une culture. Et ce sont des chants, généralement, soit issus de la révolte des esclaves et de leurs descendants, des chants populaires, des chants de solidarité. Quand même des chants engagés, on va dire.
Les propositions sont tellement variées que une émission ne suffirait pas hein,
pour la proposer. C'est clair, elle me l'avait dit. J'ai dit, non, 30 minutes, c'est bon. Elle m'a dit,
oui, et donc, ce stage percussion effective le samedi 21 mars de 9h30 à 12h30. Les inscriptions, d'ailleurs, sont effectives jusqu'au 14 mars. Est-ce qu'il pourrait y avoir un délai un peu plus supplémentaire ?
Alors déjà, on est en train d'agrandir le délai parce que bah, on s'est rendu compte qu'on avait peut-être fait la com un petit peu tard. Et aussi parce que là, c'était pour des questions de logistique, de location de salle, tout simplement en louant la salle communautaire de l'espace social. Déjà, ça a un coût. Et ensuite, on ne va pas la monopoliser si on n'a pas assez d'inscrits pour faire le stage. Du coup, on s'est dit qu'on allait prolonger la date limite d'inscription. Généralement, on ne met pas de date limite d'inscription, mais là, on a engagé l'espace social, donc c'était un petit peu la condition. On fête l'équinoxe de printemps ce jour-là. Donc, on s'est dit, bah tiens, les parents qui voudront fêter l'équinoxe, ils iront peut-être faire un petit tour sur le marché Adi. Et pendant ce temps, les enfants viendront faire des percussions avec nous le samedi 21 mars de 9h30 à 12h30. Le prix est petit et accessible. Voilà, ça permet de soutenir les actions et les activités de l'association. On a envie de fêter ce printemps avec vous, les enfants, si vous m'entendez. Venez, nombreux, nous rejoindre. Et on va bien s'amuser. Non seulement ça fait du bien au niveau de tout ce qu'on a cité, hein, confiance, plaisir, psychomoteur, mais ça fait vraiment du bien de partager ensemble des moments de création, de libre expression.
Voilà, l'adresse mail c'est l'association lagrainevagabonde@gmail.com. Je mettrai le lien sur la page de l'émission. Et un numéro de téléphone aussi, de 06 74 21 25 87. Et vous avez aussi une page Facebook, hein, toujours avec ce même nom. Donc
toujours, et là on a un autre site qui, quand il est 2.0 ou 3.0, qui est en cours de construction, qui s'appellera lagrainevagabonde.fr, où là on aura vraiment tous les outils et toute l'historique et la bio des personnes qui travaillent au sein de l'association. D'ailleurs, si quelqu'un veut nous aider à le développer, voilà, si quelqu'un a un peu de temps à nous proposer, ça peut être ça avec la corderie aussi. On nous a aidés au démarrage. Après, on a une question franchement de temps et d'outils. On n'a pas forcément les connaissances pour aller vite. On a la matière, mais en fait, mettre en forme la matière, on peut lancer un appel. Si quelqu'un a envie de nous aider à développer notre site, on est preneur. Merci d'avance. Une petite chose, Yves, avant de finir. Les 9 et 10 avril, au gîte du Champ du Loup, à Chapia, donc au-dessus de Die, dans un écrin de verdure, mais vraiment fantastique. On propose un stage de 2 jours pour les enfants, là, en immersion vraiment au cœur du vivant, avec musique, art vivant et nature. On va fabriquer des instruments de musique verte, on va aller au cœur de la botanique, on va pister les animaux aussi, on va aller cueillir des plantes et on va fabriquer des peintures végétales. Donc j'invite, pareil, les enfants de 6 à 11 ans, on est encore sur cette tranche d'âge, à venir voir aussi sur notre page. Et bientôt, vous aurez de l'affichage qui est fait en lien avec ce stage. En attendant, il y a celui de percussion qui a lieu tout de suite. Mais si des enfants ont envie, ça sera sur 2 journées complètes, là. Voilà, avec un prix quand même super accessible aussi. Au plaisir.
Nathalie et Monique, merci beaucoup d'être venues sur RDWA pour nous parler donc de la graine vagabonde. Je te souhaite une bonne soirée.
Je te souhaite une bonne soirée aussi. Merci beaucoup. À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Nawange tusho setane iku idarnene
Nawange nawasetane iku idarnene
Nawange tusho setane iku idarnene
Nawange